Vous écoutez France Culture et à minuit 10, c'est minuit 10.
Le problème, c'est que vous avez une scission qui s'est créée depuis une vingtaine d'années entre l'activisme électronique et l'aide humanitaire ou l'aide au développement, c'est un petit peu comme on veut. Si vous voulez, dans les années 90, c'est créé une forme d'activisme électronique, c'est-à-dire des gens qui sont mis à défendre des droits et libertés électroniques. Ça commence en fait aux États-Unis avec notamment l'Electronic Frontier Foundation. Alors sous ce nom de bande dessinée se cache en fait notamment John Perry Barlow, le chanteur des Grateful Dead, qui a créé une petite organisation avec son argent pour lutter contre les dérives du FBI qui allait enquêter contre tout citoyen américain dès qu'il avait des activités électroniques un peu louches. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que ça marchait très bien parce que les réseaux sont simples à utiliser et puis c'était fait par des gens qui maîtrisaient la technique. Donc l'activisme a continué à se développer, des gens ont organisé des petites choses et le gros coup de boom, ça a été en 2000, avec le développement de l'activisme politique. La campagne de 2000, c'est le moment où on a vu naître MoveOn.org, le site qu'on a entendu en extrait. Vous avez, j'en ai pas parlé, mais vous avez tout un tas d'autres organes, encore Génération Précaire. On les connaît parce qu'ils ont une forte influence médiatique. Mais aujourd'hui, c'est un groupe qui a beaucoup moins d'influence qu'il n'a pu en avoir. Ce sont des gens qui n'arrivent pas facilement à fidéliser les comportements. Pourquoi ? Parce que là où les ONG sont bonnes, c'est pour organiser l'action en amont, la préparer et préparer les retombées. Là où les activistes sont bons, c'est pour réagir en instantané, être rapide et essayer d'agir vite. D'où la nécessité de reboucler, c'est quelque chose qui a été prévu par plusieurs sites internet, j'en citerai seulement deux, avaz.org, avaaz.org, qui essaie de rattacher les activistes en ligne à des activités précises, par exemple soutenir la cause des Tibétains ou des choses comme ça, qui mettent des outils à leur service, et également idealiste.com, qui est un site qui vous propose à vous de poser une action, un projet, et ils vous mettront en contact avec des gens partout dans le monde pour essayer de le réaliser. D'une certaine façon, le problème sur Internet, c'est que le monde de l'humanitaire essayait de rendre les gens tous égaux, alors que sur Internet, en général, ils sont plutôt tous égaux, E-G-O.
Sur ce que vient de dire et de pronostiquer Jean-Baptiste Souffron, puisque vous aussi, vous avez un rapport... activiste, voilà, sur Internet, et notamment avec l'humanitaire, on verra ça tout à l'heure avec votre jeu vidéo.
Je pense qu'effectivement, il y a toute une tendance qui est importante à développer sur le web, et ce qu'on appelle maintenant le web 2, effectivement, qui a émergé depuis quelques années, qui est surtout marchand, et je crois qu'il y a effectivement des passerelles à faire entre le monde activiste traditionnel qui est dans la rue, voilà, qui bouge, et le web, où des millions de personnes circulent et font beaucoup de choses, et il y a encore beaucoup de choses à inventer avec le web et avec Internet, sur des outils comme ça qui sont des passerelles, des portails. Alors effectivement, là, tu as cité des médias libres dans les années 2000, à l'époque du web numéro 1, mais effectivement, aujourd'hui, on arrive à des formes un peu hybrides, qui font qu'on peut ramener les gens du web 2 plutôt marchand aujourd'hui vers des choses plus humanitaires, plus sociales, plus associatives.
Abbé Bounan avec votre invité, David Guez.
Donc vous êtes un ingénieur, artiste, activiste et vous venez de lancer donc Dotred, qui est une sorte de jeu vidéo, réseau social, viral et humanitaire. Pourquoi le mot Dotred ?
En fait, le mot Dotred au départ, c'était essayer de trouver autour de l'idée du projet une sorte de logo persistant. Et Dotred, en fait, c'est le LED rouge de tous les appareils électroniques qui sont en veille quand on les éteint. Et je voulais essayer de faire passer l'idée que même quand on est chez soi, ne pas regarder la télé, il y a ce petit point rouge qui nous rappelle des choses. Donc c'était l'associé aux idées du projet, en tout cas.
D'accord. Alors le principe de Dotred, je le rappelais, c'est une carte de Paris découpée en 1 million de parcelles de 100 mètres carrés. Chaque parcelle vaut 2 euros. Une fois qu'on a acheté une parcelle, eh bien, on est bien content. On peut synchroniser avec son compte Facebook, le personnaliser, y ajouter sa photo. Et le principe, c'est plus un joueur...
Quel est le rapport entre acheter une parcelle à 2 euros et ensuite faire le lien avec Facebook ?
Alors quand on achète une parcelle, et bien ensuite la parcelle qu'on a achetée sur le site internet, et bien se synchronise avec Facebook.
D'accord.
Et ensuite on peut y mettre sa photo, le personnaliser. C'est un peu sa parcelle à soi, quoi.
D'accord.
Donc alors plus le joueur invite d'amis.
Laurent qui dit oui.
J'ai compris. Mais
non. En fait, si je peux intervenir.
Oui.
Hein, quand même. Voilà. Le projet, c'est de l'idée là, c'était de racheter Paris d'un point de vue symbolique pour aider la cause du logement social, en fait. Donc on.
J'allais venir.
Oui.
Voilà. Vous êtes en train de le foutre sur ma tête, moi.
Non, mais en tout cas sur Facebook, c'est un peu différent. Mais enfin.
Oui, pardon. Bah, alors je termine juste. Et après, vous direz. Plus un joueur invite d'amis, donc en l'occurrence c'est des friends, plus il invite à acheter des cubes, plus son territoire s'élèvera un peu à la manière d'une tour. Alors ici, les gains ne sont pas réversés à une start-up dans la Silicon Valley, mais plutôt à des associations comme par exemple les enfants de Don Quichotte. Est-ce que j'ai bon là, du coup?
Non, c'est très bon.
Alors, combien de personnes, de parcelles ont été achetées pour le moment? Alors,
environ 500, donc c'est pas énorme pour l'instant, mais ça fait une semaine que c'est lancé.
C'est 1000 euros, quoi.
Non, parce que ça commence à partir de 2 euros. C'est-à-dire qu'on peut acheter 100 mètres carrés pour 2 euros, mais on peut aussi acheter tout Paris, c'est 2 millions d'euros. Voilà. Donc, si quelqu'un a 2 millions d'euros, on termine le jeu et on rentre. Et c'est gagné, quoi. Voilà.
C'est Fiu qui vient de battre Madonna, je peux vous dire qu'il les a.
C'est Fiu, vas-y, achète Paris. Et...
J'ai fait un tour.
D'accord, ça marche.
Alors,
dans l'esprit, ça ressemble pas mal à un mélange entre SimCity, le jeu vidéo, et Facebook. Pour quelle raison vous avez utilisé les ressorts de ces outils ou de ces jeux vidéo pour une cause humanitaire, David Guetta? Alors justement, vous allez pouvoir...
Oui, alors moi, je suis sur le web depuis 95, donc c'était important aussi à un moment donné de dire que le web 2 nous submerge de sites commerciaux, de dot-com, de start-up. Et finalement, tout le domaine de l'humanitaire, du social, des associations est complètement invisible. C'est-à-dire que le Web 2 fédère des masses énormes, mais le Web 2, c'est Google, c'est Yahoo, c'est tous ces gros sites. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la masse d'autre que juste rencontrer une petite copine, acheter des sex toys et puis...
C'est déjà énorme, David Diaz.
C'est déjà énorme, mais le problème, c'est que c'est du virtuel, et moi, mon idée principale, c'était de dire que le virtuel doit aussi faire des passages vers le réel. Et j'ai pensé à un moment donné que le jeu, c'était un phénomène de masse comme le cinéma. Enfin, c'est des industries aussi importantes. Alors évidemment, avec des petits moyens, avec des petits budgets, avec je suis du milieu de l'art, donc on n'a pas des gros budgets comme le cinéma. Mais en tout cas, c'était utiliser cette idée virale du réseau social tel que Facebook. Facebook, c'est 100 000 personnes en septembre 2007, c'est 1 million en janvier 2008. Donc il y a ce phénomène viral qui fonctionne bien. Donc c'était utiliser ce ressort des sites de type Facebook et le jeu comme un moteur, un peu comme un levier pour amener les gens à participer ensemble à des causes humanitaires.
C'est sûr, vous êtes sur Facebook?
Non, pas du tout.
Sur MySpace.
À la base, j'étais
sur
pas MySpace. Du tout. Ouais, MySpace, ouais. À la base, j'étais pas du tout Internet. C'est-à-dire Internet, c'est-à-dire vous savez les nouveaux portails qui sont MySpace, etc. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à m'y mettre parce que on m'y a obligé.
Avec un fusil sur la
tempe. Non, mais on m'y est obligé tout simplement, naturellement, parce que c'est vrai que dans le travail qu'on fait, on a amené aussi à rencontrer des personnes. Non,
c'est des conditions de travail.
Les conditions de travail, c'est important aussi d'aller communiquer avec notre public internet aussi, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mode de communication qui est devenu énorme.
Et question jeux vidéo, vous êtes plutôt quelle direction?
Bah écoutez, moi je suis plus.
Football,
hein, PES.
Ah d'accord, comme tous les gens qui viennent ici.
Exactement. Et pour revenir sur ce que disait
David Guez,
c'est super. Moi, je trouve ça vraiment totalement original comme idée, parce que c'est vrai qu'on parle pas aussi énormément de ça, de ce type de jeu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les portails internet consistent à on va dire à soulever que des thèmes qui relèvent de des rencontres
sexuelles,
amoureuses, etc. On parle pas assez de ça. C'est vrai que c'est peut-être un portail qui pourra permettre à des personnes de pouvoir mettre une pierre à l'édifice, faire avancer les choses, et tout en faisant en permettant à des personnes qui ont du mal à évoluer dans la société, qui sont encore dans la rue comme les enfants de Quichotte, etc. De pouvoir trouver un logement, pourquoi pas, et voilà quoi.
Et justement, cette nature un peu nouvelle de l'outil de l'outil en question. Est-ce qu'il a permis de recruter de nouvelles personnes, de nouveaux donateurs, ou est-ce que finalement ce sont les mêmes que les donateurs habituels, David Guez?
Bah, ce qui est intéressant, quand j'ai été voir les associations humanitaires et militantes du domaine du logement social, et le retour que j'ai eu de ces associations, c'est que elles ont du mal à toucher cette population qui est sur Internet, qui est plutôt 18-35 ans en fait. Donc il y a une nouvelle forme de militantisme qu'il faut développer avec le web, puisque maintenant c'est l'usage de cette tranche d'âge passe par le web. Donc eux, leur envie, c'était évidemment de dire il y a aussi de l'argent qui va passer et cet outil va permettre ça, mais c'est surtout aussi de toucher des personnes qu'elles n'arrivent plus à toucher dans le réel.
Alors, vous dites ils n'arrivent pas à toucher les 18-35 ans, etc. Mais pourtant, j'ai lu qu'il y avait des associations qui étaient complètement réfractaires à l'outil Internet et que vous avez du mal à démarcher.
Bah, c'est très compliqué. Par exemple, quand on a essayé d'aller brancher les Emmaüs ou choses comme ça, c'est des très grosses associations, déjà très très grosses, très structurées, très hiérarchiques. Et c'est vrai que les retours les plus rapides ont été plutôt sur les enfants de Don Quichotte qui sont plus dans cette culture aussi du média,
oui,
qui ont l'habitude
de la communication.
Oui, voilà, qui sont plus jeunes. Jeudi Noir aussi. Alors Habitat Humaniste, qui est une très grosse association, qui est pas très connue du grand public. Moi, je connaissais pas du tout, qui est très implantée. J'ai eu de grosses discussions avec eux pour les persuader aussi que c'était important de venir sur ce médium, et finalement elles ont accepté parce qu'elles ont compris que c'était important et qu'il y avait des choses à faire, donc il y a un peu un choc des cultures, mais justement le web, il faut qu'il puisse permettre de faire aussi ces liens là entre ces différentes cultures. C'est quand même génial le web pour ça, quoi. C'est qu'on va réunir des gens qui sont pas du tout, qui se réunissent jamais dans le réel, donc aussi
Mais alors, que vaut ce jeu au niveau véritablement de jeux vidéo?
Justement, alors personnellement, je l'ai trouvé pas très amusant. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le rendre justement, jouer vraiment la carte du jeu vidéo et le rendre très amusant? On reproche souvent aux serious games, et en l'occurrence vous avez développé un serious game, d'être un peu trop serious et pas très game, et qu'en l'occurrence ça perd un peu de son attrait et de l'avantage du jeu vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas un ressort ludique à développer pour vraiment attirer plus de personnes?
David Guez.
Bah, carrément. Alors le truc, c'est que j'ai eu une résidence avec le centre Pompidou et le centre Regard.net pour faire ce projet. On a eu quelques mois, et on est vraiment parti sur le principe minimaliste de dire il faut absolument que ça marche pour l'expo qui a eu lieu la semaine dernière, et surtout avec l'idée principale, c'est que le serious game, c'est un jeu pédagogique, c'est-à-dire c'est un jeu qui a des règles finies, mais c'est un caractère pédagogique. Là, l'idée, c'était de dire qu'un jeu change la réalité. C'est l'idée principale. Alors, on a fait une première version qui est sortie la semaine dernière. Il y a une équipe qui a travaillé d'arrache-pied dessus.
Et ça va évoluer.
Évidemment, ça va évoluer. Là, c'est la carte de Paris. On va rajouter des cartes. Là, il y a une résidence qui va se faire avec Sao Paulo pour essayer de racheter Sao Paulo pour travailler sur le problème des favelas. Et les cartes vont s'ajouter. Et le territoire qu'on a acheté, qui s'occupe, qui grandit en hauteur, plus on invite d'amis, plus on fait de prosélytisme dans le jeu, on va pouvoir ensuite acheter un cube à Bruxelles, à Montréal, à Sao Paulo, et passer de carte en carte. Donc, si vous voulez, le gameplay, entre guillemets, il va évoluer aussi avec les différentes cartes qui vont s'ajouter, les différentes problématiques. À chaque fois, on va trouver des associations locales. Des problématiques, ça peut être l'environnement, ça peut être différentes choses, tout ce qui touche l'ONG en fait. Et voilà, le développement va se faire comme ça aussi. Alors effectivement, le gameplay, il est encore un peu faible. Il est plus sur le mode viral, je veux avoir ma plus grande tour, etc. etc.
Je veux rester Neuilly, par exemple.
Voilà, non, alors, je ne peux pas rester Neuilly. Et après, on va faire une bourse d'échange de cubes. Alors c'est vrai qu'on peut aller très très loin dans les envies. Après, j'ai plein de contraintes, je ne suis pas une boîte de jeux vidéo. Mais ça me titille d'aller les voir aussi pour peut-être faire un truc plus
idéalement mal. Si vous affichez 10 millions pour développer le jeu vidéo viral humanitaire de vos rêves, vous feriez quoi? Comment, vers quoi évoluerait cette plateforme?
Bah, je pense que ce serait une sorte de Second Life Sim City. Mais moi, j'ai même envie d'aller plus loin. J'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'on joue au Pac-Man dans un bar, il y a une taxe sur les jeux vidéo, quoi. J'ai carrément allé au niveau politique, en fait. Voilà, quoi.
Alors vous disiez, le virtuel fait son entrée dans le réel. Mmh. Si on retourne un peu en arrière, en 95, c'était au début de l'Internet grand public, vous aviez commencé avec une série d'objets 99% recyclés Internet. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'était? C'était un peu le passage entre votre activité de plasticien très matériel, qui était avant Internet, et votre formation d'ingénieur que vous avez complètement mis à contribution après, en 95.
Ouais, c'est vrai que moi, j'ai fait des études d'informatique et des études d'art plastique. Donc l'arrivée d'Internet, ça a été parfait puisque j'ai fait le lien entre les deux en fait naturellement. Enfin c'est moi, voilà. Enfin c'est un peu le rôle de l'artiste aussi. C'est vrai que dans les années 95-96, j'ai développé une série qui s'appelait 99% recyclé Internet où je mettais en jeu le corps plastique, le corps art plastique avec le corps virtuel. Donc j'ai par exemple fait des moteurs d'images qui allaient rechercher des images sur Internet, qui les projetaient sur de la crème de beauté. J'ai fait de la crème de beauté recyclée Internet, l'eau de vie, etc. Et ensuite, je suis passé à une autre phase. C'était avec les médias, donc c'était voilà, l'époque 97-98-99, avec j'ai fait la première Web TV, j'ai fait un portail.
La Web TV, c'était une sorte de YouTube avant l'heure en fait.
Téléweb.org, j'ai lancé Téléweb.org en 99, qui était un YouTube avant l'heure, mais sur le même modèle associatif, libre, les gens pouvaient mettre leurs programmes. J'ai travaillé avec toutes les télés libres de l'époque, toutes les radios libres. Il y avait plus de 2000 télés et radios, et donc j'étais en concurrence à l'époque avec les gros portails qui se profilaient comme TF1, etc. Mais c'était juste avant, quoi. Et moi, mon rôle d'artiste, c'est de changer les usages, et après de passer la main à d'autres, quoi.
En Italie, à Monte Cassino, en France, en Allemagne, toujours au premier rang.